Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier.
Bonjour.
Bonjour Didier. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, nous avons une invitée. On peut même dire des invités, puisqu'elle représente son groupe. Ce sont des jeunes invités talentueux et passionnés. On accueille la représentante de Sun Crew, Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Voilà, alors Sun Crew, c'est une nouvelle troupe mancelle de danseurs de K-pop qui viennent partager avec nous et avec vous, chers auditeurs, leur goût de la culture coréenne. Bienvenue. En deuxième partie d'émission, on plongera dans l'émotion avec Didier, n'est-ce pas ?
Ah, clairement, oui.
Tu vas nous raconter l'histoire d'Hachiko, le célèbre chien de la race japonaise Akita.
C'est ça. On connaît tous un tout petit peu l'histoire, mais là, on va approfondir un petit peu ensemble.
Bon, Marie, alors Sun Crew, présente-nous un petit peu ce groupe. Donc Sun Crew, ça veut dire équipage du soleil, c'est ça ?
C'est ça. C'est, on représente le soleil avec une volonté d'être... Un peu comme une famille, ça a été l'objectif premier.
D'accord. De créer un groupe qui fait du bien.
C'est ça. On se connaissait pas tous au départ.
Oui.
Ça a commencé avec deux filles, Leïla et Louisa, qui ont voulu monter un groupe de danse. Et à travers des recrutements, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se connaît pas entre nous, à part... Ça a aussi fonctionné avec le bouche à oreille. Moi, je suis arrivée avec le bouche à oreille.
D'accord, mais le bouche à oreille, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou le bouche à oreille dans la vraie vie, ça s'est passé comment ? Comment vous en êtes arrivée à former Sun Crew, donc ?
Principalement, ça a été par des recrutements.
D'accord.
C'est-à-dire que soit en présentiel, à travers des conférences, par exemple la Geek Life, on a eu une membre qui est arrivée à travers la Geek Life.
Sinon,
La Geek Life, c'est un... Une convention sur la culture asiatique au Mans.
Au Mans.
Et sinon, c'était par des recrutements à travers des stories sur Instagram, principalement.
D'accord.
Mais pour ma part, c'était le bouche à oreille, c'est-à-dire que j'avais une amie, même deux amies, qui faisaient partie du Sun Crew et qui m'ont dit que c'était super bien, que ça permettait de rencontrer des gens du Mans qui étaient fans de K-pop aussi, ce qui n'est pas forcément super facile.
C'est vrai, de se rencontrer, de se trouver.
C'est pour ça que c'était ça le...
On est discrets, les fans de culture asiatique et de K-pop.
Exactement. Et c'est assez rare de... Et même, c'est pas facile de créer un lien aussi. Donc, c'est grâce à ce Sun Crew qu'entre membres, on s'est trouvés et qu'on partage la même passion.
Et ça fait combien de temps ?
Ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans.
Ah oui, quand même. Oui, donc vous êtes un groupe qui dure dans le temps.
C'est ça.
Ils ne sont pas d'hier, ce n'est pas de la dernière... vous vous êtes produit dans une brasserie du Mans, dans le cadre de la Festival de la Pop Culture, c'est ça c'est ça, hein,
oui.
Je pense. Et donc vous existez depuis déjà 4 ans. Donc ce n'était pas la première fois que vous vous produisiez il y a 2 semaines.
Exactement, on a 4 ans d'expérience, on n'a pas tous 4 ans. C'est-à-dire qu'on a énormément évolué. Les membres du début ne sont pas les membres qu'il y a aujourd'hui, forcément.
Oui, ça évolue.
D'accord. Exactement.
D'accord. Alors, et vous, personnellement, Marie, c'est quoi votre itinéraire ? Racontez-nous un petit peu. C'était le bouche à oreille qui vous a fait découvrir Sun Crew, mais pourquoi étiez-vous à la recherche de quelque chose qui ait attrait à la culture pop et la culture pop coréenne particulièrement ?
J'ai trouvé que le Sun Crew, c'était exactement le mélange parfait entre ma passion de la danse. Je fais la danse depuis 10 ans, même plus.
D'accord.
Et pouvoir mélanger la danse et la K-pop, ça a fait le Sun Crew finalement. Parce que je ne retrouvais pas forcément le même niveau de danse dans les cours. Parce que j'ai fait des années de cours de danse. Mais là, j'avais vraiment l'occasion d'être vraiment libre dans ce que je pouvais faire. J'étais pas limitée par un professeur, j'étais pas limitée par une danse en particulier. C'est vraiment nous qui choisissons ce qu'on fait et ce qui nous plaît.
Donc c'est la liberté un peu alors.
Exactement.
La
K-pop. Ça, c'est contrainte, mais...
Oui, de toute façon, pour arriver à la perfection, il y a beaucoup de travail. Et vous, personnellement, vous êtes étudiante, Marie ?
Oui.
Vous avez un parcours un petit peu particulier qu'on connaît pas forcément au Mans. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, surtout par rapport à la fac.
Oui, tout à fait.
donc, je viens de finir ma deuxième année de licence LEA au Mans.
D'accord.
Où j'étudie l'anglais, l'espagnol et je fais partie d'étudiants qui ont choisi le parcours Asie, qui est une option.
Très intéressant.
C'est ça. Et on a des cours sur la culture asiatique.
En général.
Plus axés sur l'histoire. Et une langue en plus qui est soit le chinois, soit le coréen.
Et vous avez choisi ?
Le coréen.
On s'en doutait un
étonnant.
Petit peu. Hein, c'est étonnant, Didier. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous attire le plus ? Alors, Sun Crew, et puis vous, Marie, personnellement, dans la K-pop par rapport à d'autres genres de musique, parce qu'il y a la pop music, hein, on parle beaucoup de Dua Lipa, par exemple, en ce moment, de Sia, etc. Qu'est-ce qui est différent dans la K-pop ? Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes complètement accro ? Parce que vous... Je sais que les amateurs de culture coréenne, culture asiatique, on devient très très vite accro. Alors pourquoi la K-pop ?
Je dirais, pour mon expérience, je dirais surtout par rapport à la danse.
Oui.
Quand on regarde les autres genres de musique, on ne retrouve pas forcément cette importance qu'a la danse dans la musique. C'est vraiment... quelque chose de très important, ça fait partie de la musique. Et
c'est ça, il n'y a pas de musique sans danse dans la K-pop.
Exactement, c'est vraiment une façon de promouvoir la musique et les chanteurs de K-pop sont tout autant danseurs.
C'est vrai, et d'excellents danseurs.
Exactement, qui passent par des entraînements intensifs de longues années parfois. Et je dirais qu'il y a aussi cette variété qu'a la K-pop. On ne peut pas résumer la K-pop à un genre de musique. Il y a tout dans la K-pop, on peut trouver
de tout.
Et parfois, de tout dans une musique. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment...
Quand vous dites de tout, Marie, vous pensez à quoi ?
En genre, vous voulez dire ?
Oui, en genre, du coup. C'est-à-dire, la K-pop, c'est un genre à part entière, mais c'est un genre qui contient beaucoup de styles de musique. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la K-pop ?
C'est
parce qu'il y a des personnes qui ignorent complètement ce qu'est la K-pop.
Ben, je dirais que la K-pop, elle s'inspire d'énormément de genres de musique, comme principalement le hip-hop, la pop, le R&B, on peut retrouver aussi de l'EDM.
EDM, c'est quoi ?
Je dirais que ça ressemble plus comme de la techno,
d'accord.
Quelque chose qui bouge beaucoup. Et aussi du reggaeton, peut-être des sons plus latino. Ça s'inspire vraiment de tout et ça évolue en fonction des tendances, de ce que les gens aiment.
De la société aussi.
Exactement.
Il y a du rap aussi.
Il y a aussi du rap.
Il y a aussi des rappeurs. Hein. Enfin, du moins, dans les groupes de K-pop, il y a souvent un rappeur qui est souvent excellent.
C'est ça.
Alors, est-ce que ça influence votre vie quotidienne, vous et les groupes de Sun Crew, en quoi ça vous influence chaque jour ? Qu'est-ce qui fait que c'est le fait d'aimer la K-pop et puis d'être membre d'un groupe de danse, est-ce que ça change votre vie quotidienne ? Comment vous y pensez ? Comment ça se passe ?
Évidemment que tous les jours, on vit avec la K-pop. Je sais que par exemple, quand j'ai découvert la K-pop en 2017, je mangeais K-pop, je chantais K-pop, je dansais K-pop, c'est... Quand on rentre dans cet univers, c'est vraiment, on le suit et on y pense tout le temps en fait. Que ce soit les contenus qu'on regarde sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps, tous les jours avec nous et faire partie de cette communauté aussi, c'est...
C'est ça, c'est faire partie d'une communauté. Est-ce que vous faites partie d'une communauté comme l'ARMY par exemple, l'ARMY de BTS ?
Je sais que dans mon cas, je suis très polyvalente.
D'accord.
Ça m'est très peu arrivé d'être fan incontesté d'un seul groupe, mais je touche un peu à tout.
Parce qu'il y en a plusieurs qui sont très bons.
Oui, exactement. Et souvent, il y a tellement de groupes qui arrivent tous les jours. Très souvent, au moins une fois par mois, il y a un nouveau groupe qui arrive et je me dis « Ah tiens, j'aime bien, je vais le suivre. » Et même un seul groupe change tellement souvent aussi de concept. C'est
créatif. Donc on s'ennuie jamais.
Exactement. Créativement, oui. C'est hyper inspirant.
C'est inspirant. Marie, vous avez choisi, on va faire une pause musicale. Hein. Moi, j'ai un peu hâte d'écouter le choix de Marie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier.
Ah, mais oui, moi, je partage ton idée, il n'y a pas de souci.
Alors, elle nous a proposé, Marie, donc dans Asialogie, c'est Smart.
C'est ça, Smart.
C'est ça, et la chanson, c'est la chanson qui est Smart.
C'est ça, la chanson, c'est Smart, et le groupe, c'est Les Séraphines.
Les Séraphines, on écoute Les Séraphines dans Asialogie. Thank you.
I'm a smarter baby, smarter, smarter baby, smarter. 하늘 보면 별까지 깜빡해서 돌보지. Wanna be a winner, wanna be a winner. Yeah, like baby, 때까지 난 나비가 될 애쓰니. 원하는 건 승리란 놈. I call it sugar, my sugar, sugar. 플랜대로라면 놓칠 리가.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3,
oui,
avec Marie qui nous a proposé,
même.
Oui, même, oui, ah. qui nous a proposé Séraphim pour nous faire découvrir son univers K-pop et les chansons qu'elle préfère.
Oui, et j'aimerais en connaître un petit peu d'autres, Marie, des chansons que tu préfères ou que votre groupe affectionne particulièrement. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Je sais qu'on va en écouter un autre tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres en dehors de les Séraphim et puis le suivant de tout à l'heure, qui est très connu?
Alors pour les groupes qu'on apprécie beaucoup, c'est par exemple Seventeen.
Oui, parce que, on va l'écouter, je crois, Seventeen.
Oui,
c'est
il
ça
est après.
C'est, ça.
Après.
C'est ce qui est prévu, oui.
On en avait parlé de Seventeen, tu te souviens, Didier, un petit peu?
Oui.
Et il y a aussi, par exemple, des chorégraphies sur lesquelles on a dansé. On a beaucoup de Itzy. On fait beaucoup aussi de G-Idol. Un peu moins de boy group, de groupes de garçons.
Plus des groupes de filles.
C'est ça. Je ne sais pas si c'est...
Et Blackpink, vous en pensez quoi?
On va bientôt... On est sur un... On travaille sur une chorégraphie de Blackpink en ce moment.
Ah, oh, super.
Qui va bientôt être tournée et bientôt postée. Mais...
Faudra nous prévenir parce qu'on pourra passer au moins la chanson, si on peut.
Mmh. Oui, puis on pourra aussi faire l'écho de,
et
de
faire
ce
l'écho
qui se vit
de ce que
dans
vous
votre
faites,
groupe.
Bien sûr. Alors, pour vous, Marie et les groupes de Sun Crew, qu'est-ce qui rend la culture des fans de... Enfin, la culture, la pop culture unique?
Je dirais que c'est parce que c'est avant tout un univers, c'est presque comme une autre planète. C'est
un autre monde.
C'est un autre monde. Quand on y tombe, on n'y revient pas. Enfin,
on n'en sort pas.
Pas pendant un certain temps, je dirais. Parce que
ça a l'air addictif. Hein.
Oui, mais je suis d'accord, hein, complètement. Je trouve aussi. Moi, je vais pas m'exprimer longtemps là-dessus, mais je dirais que c'est vrai, il y a beaucoup de choses de l'Asie, et effectivement, la K-pop, la culture pop coréenne, ça fait du bien.
Exactement, c'est tellement différent que c'est comme stimulant, et on a envie de plus, quoi.
Et oui.
Même par rapport, les musiques sont tellement différentes, la culture est tellement différente, c'est un nouveau langage, et puis entre fans, on se comprend, parce qu'on a, l'impression que, même si maintenant c'est devenu mondial ce phénomène,
oui, c'est mondial.
C'est quand même pas tous les jours qu'on
croise... Il y a des millions et des millions de fans de pop culture qui ne sont pas coréens, en plus. Il y en a beaucoup en France, beaucoup, partout...
Oui, on en a déjà parlé,
partout au monde.
C'est un phénomène mondial.
Oui, c'est impressionnant, c'est vrai.
Et pourtant, on se reconnaît pas forcément. On se reconnaît, mais c'est quand même rare de tous les jours rencontrer un fan de K-pop.
C'est vrai.
on a quand même l'impression que c'est un truc en plus qui nous unit. Et,
ah, et... c'est beau, j'adore. J'adore Marie, c'est vrai. Non mais je suis tout à fait... je suis fan. Alors, est-ce que vous pouvez décrire un moment particulièrement émouvant ou inspirant que vous avez vécu en tant que fan de K-pop ? Est-ce que vous avez pu rencontrer une de vos idoles ?
Alors, je dirais que oui.
C'est vrai ?
Même si je ne sais pas vraiment si... Il y a peut-être débat, mais je ne sais pas forcément un artiste de K-pop à part entière. C'est plutôt la branche K-hip-hop, K-rap. Oui. Mais c'est vrai que j'ai assisté à un concert à Paris de l'artiste D.Pierre, de la bande d'artistes D.Pierre. Pas encore de groupe de K-pop parce que malheureusement, j'ai pas les moyens financiers nécessaires pour assister à un concert. C'est vrai que
c'est assez onéreux.
Cher. Ça maintenant, doit être moins 200 de 200€ la place. Hein.
Ah,
même plus cher
pour, pour BTS et Blackpink, ça peut monter à 2000€.
Eh oui,
ah,
oui,
des bonnes places. Ah oui, oui.
Effectivement, je m'attendais pas à ça. Je pensais
mais
cher,
si,
mais pas
si
autant.
En réfléchissant, d'accord. On peut y penser. Okay, okay. D'accord, Marie.
Bon.
Bon, alors, je voudrais aussi reparler de quelque chose dont vous aviez parlé lors du Festival de la Pop Culture au Mans il y a 2 semaines. C'est le reportage que vous aviez fait sur les idoles, comme quoi leur vie était bien difficile. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, c'est vrai qu'on avait fait un reportage qu'on avait séparé en 2 vidéos distinctes. Une qui était un peu plus... négative, où on parle des contraintes, de la pression énorme des artistes et de toutes les règles de cette industrie, et une autre qui était un peu plus positive, plus légère, et qui était un peu plus globale de pourquoi aimer la K-pop. Mais c'est vrai qu'on avait parlé de cette pression qu'ont les idoles depuis leur plus jeune âge, finalement. C'est une industrie qui est très, très exigeante.
Oui, compétitive.
C'est ça. C'est... Les trainees, donc
les entraînements,
apprentis,
les apprentis.
Sont même pas sûrs finalement de débuter un jour. C'est vrai que c'est la course à celui qui sera le meilleur finalement. Et c'est pas toujours facile à vivre. Et malheureusement, il y a parfois des événements un peu exceptionnels où on apprend le suicide d'un artiste ou que parfois il quitte. Ils ne sont plus publics pendant un certain temps parce qu'ils sont dans une phase mentale compliquée. Donc c'est vrai que c'est assez extrême et une industrie aussi extrême comme ça a aussi son prix finalement.
Oui, oui, vous en parliez très bien dans ce reportage. Vous l'avez diffusé sur les réseaux sociaux, ce reportage ?
Non, on l'a gardé exclusivement pour ce festival, mais c'est vrai qu'on a eu des bons retours sur ce reportage.
Oui. Il y a eu aussi des reportages à la télévision là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes regardent plus les réseaux sociaux que la télévision, et que c'est important aussi qu'ils se rendent compte du prix à payer pour devenir artiste et que c'est pas si simple. Hein. Il y en a qui vont en Corée, qui essaient de tenter leur chance, mais très peu de chance.
C'est dommage de passer à côté parce que finalement, être dans le déni, c'est être fan d'un artiste et ne pas se rendre compte de la réalité derrière. C'est toujours important de s'informer, de faire ses recherches parce que on n'est pas dans un monde de bisounours. Et malheureusement, certes, c'est un succès énorme, mais ça vient avec un prix derrière.
Oui. Marie, merci beaucoup d'être venue. On espère vous revoir bientôt. Vous avez choisi une autre chanson, donc vous pouvez nous la présenter
oui,
avant que Didier nous la fasse écouter.
C'est une musique qui, pour le Sun Crew, est très importante parce que ça a été...
Dites-nous pourquoi.
Je pense que c'est... le meilleur souvenir qu'on a de nous, de nos 4 ans d'expérience, parce que c'est une musique qu'on a présentée à un spectacle suite à La Couveuse, qui est une façon de suivre des jeunes talents du Mans en les accompagnant pendant 1 an, en leur aidant à avoir des cours,
etc. Oui, je pense que Radio Alpa connaît bien La Couveuse.
Et donc, par rapport à ce dernier spectacle, on avait choisi. C'était un peu de la dernière minute, mais on avait appris en 1 semaine, top chrono, cette chorégraphie. Et elle rendait trop trop bien, on était super fiers d'elle. Et à chaque fois qu'on l'entend, c'est vraiment un peu nostalgique.
Alors on va être nostalgique alors, Marie. Alors elle s'appelle comment cette chanson ?
Elle s'appelle Pretty You de Seventeen.
Et c'est Seventeen.
Et c'est parti. Oh.
방송에 남기던데 사전에 널 찾으면 하루 종이 돼 쓴 좋겠단 말야 근데 오늘은 대체 어떻게 해야 돼?
인터넷에 다 물어볼까 어떤 옷도 어떤 곳 공부를 이렇게나 해볼까
오늘서 너를 선택했고 나는 단위로 집중해 널 볼 때 나 숨이 체할 것만 같아 방송은 한 그런데 참겠어 Baby 한번 해이래 너의 마음속을 달려가는 중인데 Baby 이제 겁이 다 왔어
C'était Pretty You de Seventeen, une chanson choisie par Marie de Sun Crew. Et c'était bien sûr dans Asialogie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Didier, c'est l'heure de l'émotion. Oui. Tu vas nous raconter l'histoire d'Hachiko,
oui,
qui a sa statue en bronze à Shibuya,
oui,
à Tokyo.
Tout juste. Oui. Bon, enfin, bon. Avant, quelques mots sur la race du chien le plus célèbre de la planète.
Alors oui, c'était quoi alors, Hachiko?
Hachiko, c'était un Akita Inu, une race indigène du Japon. Ces chiens étaient élevés à l'origine pour la chasse au gros gibier dans les montagnes du nord du Japon. C'était aussi
des chiens, des chasseurs.
Oui, c'était des chasseurs. C'était aussi des chiens de garde et de compagnie sélectionnés au fil des siècles pour leur force, leur courage et leur loyauté. Et là, c'est peu dire. Ils sont de taille moyenne, avec une tête large, les yeux triangulaires et de petites oreilles dressées. Ils ont un pelage très dense et le plus souvent fauve et blanc. Mais Hachiko, lui, il était tout blanc.
Ben, on l'imagine bien, Hachiko. Bon, alors, maintenant, on imagine... Le décor est presque planté.
Voilà.
Tu nous racontes son histoire.
Bien sûr. Alors, d'abord, son nom, Hachiko, a deux sens en japonais. Il désigne à la fois le huitième shō de la portée, Hachi, et Ko, suffixe utilisé comme diminutif. Donc, Hachiko est né dans une ferme de la préfecture d'Akita en 1923. Il a été recueilli en 1924 par Hide Saburo Ueno, professeur d'agriculture à l'université de Tokyo.
Il avait un an donc à l'adoption.
Voilà, il était tout jeune. Hachiko ira chaque jour accompagner son maître à la gare. Tous les soirs, Hachiko revenait tout seul à la station de Shibuya pour retrouver son maître adoré. Il était inséparable et il ne passait pas inaperçu. Mmh. Alors malheureusement, le soir du 25 mai 1925, Hachiko aura beau chercher, il ne trouvera pas son maître à la gare de Shibuya. Ce jour-là, l'enseignant il décède d'une hémorragie cérébrale en pleine conférence à l'université. C'était seulement un an après son adoption par le professeur. Ça a été assez court, finalement.
Oui, il était tout jeune.
Oui.
Alors, comment ça s'est passé? Quel a été le comportement d'Hachiko à la suite de ce jour tragique de la mort de son maître?
On l'imagine, il va cesser de s'alimenter trois jours et il retournera à la gare pour attendre son maître. La femme du professeur finira par prendre la décision de le confier à quelqu'un de sa famille qui tenait un magasin d'habillement dans un autre quartier. Mais Hachiko agressait les clients, il a changé de famille une nouvelle fois. Enfin, Hachiko ne s'habituait pas à la disparition de son maître.
Et il fuguait. Traumatisé.
Voilà, souvent j'imagine. En direction de Shibuya, justement, il revenait et causait des dégâts dans les champs voisins. Il a donc été confié à un jardinier qui le connaissait.
Et alors, c'est le jardinier qui l'a adopté, en quelque sorte. Alors, ça se passait bien avec ce jardinier ?
Oui, oui, cet homme s'occupait bien de lui, mais Hachiko n'avait pas oublié son ancien maître. Et il a continué de se rendre à son ancienne maison pour voir si le professeur était revenu.
Ah oui.
Mais son odeur n'était plus là. C'est à partir de 1927, 2 ans après la disparition de son maître, qu'il va se rendre à nouveau tous les jours à la gare de Shibuya. Mettant les Japonais, il guettait, les Japonais à la sortie du train dans l'espoir de retrouver son maître.
Eh oui.
Bah oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières années, lorsque Hachiko se rendait à la gare de Shibuya, il était chassé, brutalisé par les passants, par les marchands du quartier.
Alors, on peut dire qu'il a été maltraité avant d'être vénéré Hachiko. Alors, comment il a vécu pendant 10 ans à attendre son maître? Parce que je crois que c'est pendant 10 ans qu'il a attendu son maître.
Oui, c'est ça. C'est grâce à un article de journal. L'histoire d'un vieux chien, écrit par le directeur de l'association protectrice des chiens en 1933, qu'Hachiko a acquis sa popularité. Les habitants du quartier se mirent alors à le nourrir et puis on lui permit de rester à la gare le soir pour dormir. Il était devenu si célèbre qu'on lui a érigé une statue en 1934. Un an avant sa mort, Hachiko avait 11 ans.
Et j'imagine, Didier, qu'il a eu des vrais obsèques du coup, Hachiko.
Oui, il a eu le droit à une cérémonie d'enterrement à laquelle ont participé l'épouse du professeur, le jardinier et les habitants du quartier. Hachiko a été enterré près de son maître lors du premier anniversaire de sa mort. Les Tokyoïtes lui ont rendu hommage en organisant une cérémonie qui se renouvelle chaque année en avril. Et les Japonais ont commémoré ses 100 ans de sa naissance l'année dernière.
Ah d'accord, c'est presque un anniversaire alors.
C'est ça.
Alors, il y a eu d'autres hommages qui ont été rendus à Hachiko et puis il a eu sa place au cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, il a eu des hommages. Bon, ça a donné déjà le nom à une station de métro, ce qui est quand même pas rien.
Oui, en même temps, une station qui s'appelle Hachiko.
Voilà. Il y a aussi Hachiko qui a été empaillé et exposé au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo. Puis il y a aussi sa statue dans sa ville de naissance.
Et au cinéma, tu peux...
Et alors au cinéma, il y a eu 2 films. Le premier, c'est un japonais qui est sorti en 1987. Et puis, il y a aussi Hachi, réalisé par Lars Hallström en 2009 avec Richard Gere. L'histoire transposée aux États-Unis, mais qui raconte quand même la vie d'Hachiko et sa loyauté. Sortez vos mouchoirs.
Voilà,
c'est clair.
Bah, Didier, merci. Merci pour ce moment d'émotion. Asialogie, c'est fini les amis. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis toujours et vos suggestions encore. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Salut.
Au revoir et merci à Marie pour sa participation.
Merci Marie.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Thank you.